L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
L'EM, l'émission, première partie avec le musée de l'école rurale à Trégarvan. Et nous sommes avec Elsa Congar, chargée de médiation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis quelque temps, presque un mois, si je ne me trompe pas, le musée de l'école rurale a ouvert de nouveau ses portes après une longue fermeture pour des raisons sanitaires. Alors, comment l'équipe du musée s'est adaptée au contexte ?
Alors, dès que le premier confinement a été annoncé en 2020, on a dû s'adapter rapidement. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup investi les réseaux sociaux pour continuer à garder le lien avec le public. Et toute cette période aussi nous a permis de repenser un petit peu nos animations, mais également de préparer la future exposition et avancer aussi sur les prochaines.
Alors, le principe du musée et de ses expositions, on le rappelle, c'est de proposer aux visiteurs un retour et une découverte sur l'école d'autrefois. Alors, est-ce que durant cette période de fermeture, vous avez pu aussi faire évoluer quelques aspects du musée ?
Alors oui, on a fait évoluer donc quelques aspects du musée, notamment sur la présence sur les réseaux sociaux. On a aussi développé des outils d'aide à la visite pour la réouverture. On a aussi mis en place une application Imagina qui permet de guider les visiteurs pendant leur visite grâce à leur smartphone ou leur tablette.
Voilà, donc vous êtes passé aussi profiter de cette période pour un petit peu vous mettre, pas à jour quoi, mais en tout cas essayer de tenter des expériences numériques. Alors par exemple, c'était que l'application Imagina, à quoi ça ressemble ?
Alors c'est une application qui regroupe plusieurs lieux culturels, mais également des villes, des aéroports. Et cette application permet un parcours connecté grâce à des balises Bluetooth qui sont disposées un petit peu partout dans le musée. Et chaque balise déclenche du contenu, donc ça peut être soit des vidéos, soit des audios, soit des textes. En tout cas, ce sont des informations qui ne sont pas disponibles si on n'a pas l'application. C'est des informations exclusives qui apportent un supplément aux visiteurs.
Et on peut avoir accès à ces informations sans forcément visiter le musée ?
Oui, on peut télécharger l'application et du coup s'abonner à la page du musée de l'école et on peut avoir accès à toutes ces informations-là, même si on n'est pas sur place. Oui.
Quel est le contenu de cette application ?
Donc, comme je vous le disais, on a des vidéos, des audios, donc un par espace du musée. Donc, par exemple, on a un espace d'exposition temporaire, donc on propose des quiz aussi, avec les bonnes et les mauvaises réponses. Donc, les visiteurs ont la réponse, ils savent s'ils se sont trompés ou pas. On a des audios, des témoignages sonores. On a des vidéos, par exemple, de démonstrations de jeux de cours, des jeux qu'on ne présente pas habituellement en visite guidée, d'ailleurs. Et voilà, ils peuvent découvrir aussi des informations sur le village de Trégarvan, sur tout le contexte historique de la construction de cette école.
Alors, le musée a aussi été très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez réussi un petit peu à animer, à fédérer une communauté pendant cette période ?
Alors oui, notre communauté s'est bien agrandie justement suite à notre présence sur les réseaux sociaux. Donc on a augmenté notre nombre d'abonnés, on a des commentaires, des partages assez récurrents. Et puis on propose vraiment, on a un thème par journée en fait.
Ah, par journée carrément ?
Oui, c'est ce qu'on avait mis en place au début.
C'était tous les jours pendant...
Tous les jours de la semaine, oui. Du lundi au vendredi. Donc par exemple, le lundi, on partageait des tutos de bricolage un petit peu à l'ancienne, ce genre de choses. Le jeudi est dédié à l'exposition temporaire, donc des contenus qui sont en lien avec l'exposition temporaire. Le mercredi, c'est à vos cahiers, donc des dictées en direct une fois par mois. Des problèmes d'arithmétique extraits des certificats d'études, par exemple. Et c'est vrai que les gens se prêtent au jeu et aiment bien répondre et ils sont fiers quand ils ne se trompent pas, surtout.
Parce que c'est pas bête, pendant cette période de confinement, ça a permis de bosser sur des trucs qui vont peut-être vous resservir.
Oui.
Alors, ces dictées, vous en avez parlé. Alors, malheureusement, on a loupé la dictée puisque c'était ce matin.
Oui.
C'est ça. Et alors, la dictée, c'est une fois par mois.
Oui, on a décidé de maintenir ce rendez-vous, même hors confinement. Parce que, du coup, on a pas mal de gens qui y participent. Donc, ce matin, j'en avais 20, mais ça peut aller jusqu'à 50 en direct. Et beaucoup de gens la regardent également en replay. Et là aussi, ils se prêtent beaucoup au jeu. Ils nous partagent leurs copies, par exemple. Ils nous les envoient
en photo. C'est qui corrige ?
C'est eux-mêmes. Donc je partage systématiquement le corrigé à la fin de chaque dictée.
Alors comment elles sont préparées ces dictées ? C'est des textes qui étaient lus enfin, qui étaient proposées par les enseignants autrefois?
Oui, c'est, en fait, moi, je l'ai choisi dans des recueils où il y a plusieurs examens du certificat d'études. Donc, c'est des dictées qui ont réellement été données en examen de certificat d'études et surtout dans le Finistère. Celle de ce matin, par exemple, était extraite d'un examen d'Argol en 1933.
Avec un niveau tout autre que ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans les écoles. Vous avez pu essayer de faire un petit comparatif?
Oui, c'est un petit peu plus élevé, puisque le certificat d'études se passait entre 12 et 14 ans. Et on pourrait le comparer à l'examen du brevet aujourd'hui, donc, qui est à vers 14-15 ans. Donc le niveau est plus élevé et d'ailleurs beaucoup d'adultes continuent à faire des fautes.
Donc là, si les auditeurs nous écoutent, ils peuvent se rendre sur la page Facebook du musée de l'école rurale et s'inscrire pour les prochaines dictées éventuellement.
Oui, tout à fait. Et ils peuvent regarder les anciennes en replay également.
Très bien. L'occasion un petit peu de se rafraîchir la mémoire. C'est toujours compliqué les accords du participe passé dans certaines situations.
Il y a souvent des pièges.
Alors, depuis un mois, les scolaires sont de retour au musée et c'est reparti tambour battant.
Oui. Nous sommes complets en termes de groupes scolaires d'ici la fin de l'année 2020-2021. Donc, les écoles, ils ont besoin de sortir et du coup, ils ont organisé très rapidement des sorties au musée. Et c'est vrai que là, on est complet. Donc, ils viennent souvent à la journée complète. Donc, ce qu'on leur propose, c'est vraiment la découverte de la journée d'un écolier d'autrefois. Donc, avec une visite qui détaille un petit peu la vie des écoliers, donc on leur présente des objets, donc, notamment le contenu de la besace, avec tout le matériel scolaire, mais également les jeux de cours. Ensuite, ils peuvent s'essayer à l'écriture au porte-plume. Donc ça marche du tonnerre à chaque fois. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on, pour compléter la journée, on leur propose la balade de l'écolier. Donc, ils font une promenade scolaire de 3 à 4 km, accompagnée de l'association d'Isolo, avec lequel on fait un partenariat.
Autour de l'école, donc dans Trégarvan?
Dans Trégarvan, oui.
Et l'idée autour de cette balade, c'est peut-être du coup de se remettre dans le contexte de l'époque, des années 20, années 30, où on se rendait à l'école à pied, même sur des longues distances. Vous avez peut-être des témoignages justement qui vous sont parvenus?
En général, donc à Trégarvan, l'école a été construite au centre géographique de la commune pour que tous les enfants aient le même nombre de kilomètres à faire. Comme le bourg est excentré, il y en a qui auraient dû faire 6 à 7 kilomètres à pied.
Donc, et puis la côte.
Et puis la côte du bourg.
La côte de Trégarvan, ouais, elle est pentue quand même.
Et du coup, sur le chemin de l'écolier, c'est vrai que les enfants jouaient beaucoup ensemble dans les années 20-30. Ils fabriquaient leurs propres jouets, donc ce qu'on appelle les jouets buissonniers. Puis ils observaient énormément la nature. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à proposer via cette balade nature. Comme ça, ils peuvent se rendre compte que les enfants faisaient ce chemin deux fois par jour. Parce que aujourd'hui, donc, pour l'avoir expérimenté, les enfants sont fatigués assez rapidement. Et quand on leur dit qu'ils faisaient ce chemin deux fois par jour, ça les étonne.
Alors ça, c'est un des enjeux que vous souhaitez transmettre autour de l'école. Dans la visite elle-même, qu'est-ce qui vous semble important à vous, au musée, de transmettre?
Alors, pour moi, il est important de parler du passé pour que les enfants comprennent un peu le monde d'aujourd'hui, et notamment leurs aînés, parce que donc, l'école était très différente à l'époque. C'était assez strict, il y avait beaucoup de discipline, et c'est aussi pour leur montrer, pour comprendre un petit peu le monde d'aujourd'hui. Parce que le musée se veut d'être transmetteur à ce niveau-là. Et d'ailleurs, par exemple, les expositions temporaires partent du passé et vont jusqu'à aujourd'hui pour montrer l'évolution et interrogent aussi le monde scolaire de demain. Donc c'est important de connaître le passé pour comprendre le présent et le futur aussi.
Et on trouve aussi des choses un petit peu plus surprenantes aussi lorsqu'on découvre l'exposition. C'est notamment, par exemple, ça j'imagine que ça doit poser beaucoup de questions. On apprend que l'alcool était autorisé pour les jeunes jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est
oui,
ça.
Donc c'est l'alcool a été interdit à l'école en 1956 pour les enfants de moins de 13 ans.
C'est fou.
Et seulement en 81 pour les lycéens. Alors bon. Quand on parle d'alcool, on parle uniquement de bière, de cidre et de vin coupés à l'eau, ce qu'on appelait les boissons hygiéniques. Évidemment, tous les spiritueux étaient quand même interdits à l'école à l'époque.
D'accord, très bien. Ah bah, ok, heureusement qu'on a fait quelques changements depuis. Et pourtant, c'est récent, milieu des années 50. En termes de grands thèmes, quels seraient les grands sujets qui sont évoqués au cours des différentes expositions?
Alors, donc notre exposition permanente, évidemment, retrace l'histoire de la scolarisation en milieu rural en Bretagne. Donc on peut découvrir toute une partie historique qui se trouve à l'accueil du musée. Ensuite, on découvre deux salles de classe, une époque 1910, donc globalement à l'ouverture de l'école, qui a ouvert en 1907, et une époque années 70, pour faire le comparatif entre l'ouverture et la fermeture de l'école, qui a fermé en 1974. À l'étage de l'école, on évoque tout le parcours des instituteurs, donc leur passage à l'école normale. Et il y a également des reconstitutions de logements, donc années 1920 et années 1970. Et nos expositions temporaires traitent de sujets d'actualité, tout en remontant le temps, évidemment, pour partir du départ. Donc l'exposition qu'on présentait jusqu'au mois de mai, c'était « À table, école, alimentation », qui parlait de l'histoire des cantines, qui allait jusqu'à la loi Egalim de 2018. Et la prochaine qu'on va présenter, donc à partir du 1er juillet, la fabrique de l'école 2.0, va parler de la pédagogie par les écrans. Donc on parle de la lanterne magique qui a commencé à être utilisée par les enseignants vers 1890. Et on part.
Qu'est-ce que c'est que cette lanterne magique ?
Alors c'est l'ancêtre du projecteur de diapositive. Donc c'est une. On appelle ça une lanterne, mais à la lumière d'une bougie, on projetait des images qui étaient peintes sur du verre pour aider les enseignants à passionner leurs élèves. Et ça a d'ailleurs passionné les parents, puisque souvent ils organisaient des projections pour les parents curieux et les écoles étaient remplies. On ne pouvait pas accueillir tout le monde. Et c'était le top de la modernité en 1990.
Mais ça servait de support pédagogique. Oui, il y avait quand même du contenu. Il y avait quand même
des contenus.
Des diapositives. Qu'est-ce qu'on pouvait y voir de...
Alors, on pouvait y voir des cartes, par exemple. Pour la géographie, on projetait surtout des images pour servir de support en sciences et ce genre de choses.
Alors, pour les visites estivales, alors ça arrive très bientôt. Vous êtes déjà prêt à accueillir les visiteurs ?
Oui, nous sommes prêts à accueillir les visiteurs. Donc, comme vous le savez, les jauges sont levées à partir du 30 juin d'accueil dans les musées. Et donc, comme tous les ans, on va proposer des visites guidées suivies d'écritures au porte-plume pour les visiteurs. Mais donc cette année, on a plusieurs nouveautés donc, qui ont déjà été mises en place. Mais on a donc des livrets d'enquête policières. Donc les enfants doivent découvrir le voleur ou la voleuse de la boîte de Bonpoint. Il y a deux niveaux de livrets. Un livret pour les 6-12 ans et un livret pour les plus de 12 ans parce qu'on a adapté l'enquête à un niveau de difficulté. Donc via les indices qu'ils trouvent dans le livret, ils vont trouver le ou la coupable. On propose des livrets famille pour les plus petits. C'est vraiment un support à la visite pour que les parents et les enfants aussi partagent ce moment ensemble, vraiment. Et donc l'application Imagina qui permet de découvrir le musée. Et on va proposer des ateliers thématiques en lien avec la nouvelle exposition. Donc par exemple, des films de poche. Vous savez, les films qu'on faisait avec du papier. On va proposer des ateliers numériques autour de la découverte, par exemple, de création de podcasts, ce genre de choses. Et un kamishibai pour les tout-petits. Donc c'est des contes en mini-théâtre. Et on proposera également des ateliers sur le labotager, sur les jeux de cours, et trois dictées en présentiel sur l'été. Donc une au mois de juillet et deux au mois d'août.
Très bien. Alors, le musée de l'école rurale à Trégarvan, on rappelle, c'est aussi une mémoire de ce que fut l'école de la Troisième République et puis un petit peu après. Vous valorisez tout ça au travers d'une muséographie bien intéressante. Alors, comment construisez-vous cette mémoire ? Quel matériel vous avez à disposition ?
Donc, on utilise énormément d'objets de nos collections. Donc, des objets qui sont des dons de la part de personnes comme vous et moi qui ont récupéré des objets. C'est vrai que c'est surtout à travers l'objet en médiation, en tout cas, qu'on travaille. On collecte aussi beaucoup la mémoire d'anciens pour qu'ils puissent nous parler de l'école qu'ils ont connue, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, jusqu'à mai 68, l'école n'a pas beaucoup changé. Et il y a encore pas mal de témoins de l'école qu'on présente, même si la classe est reconstituée en 1910. Et on invite à participer, par exemple, quand on a des groupes d'adultes qui ont connu cette époque-là. On se nourrit de leurs témoignages aussi.
Vous l'avez un petit peu évoqué. Est-ce que l'intérêt se porte aussi sur d'autres périodes ? Parce que la classe, là, vous l'avez dit, elle est mise en mode 1910, juste avant la Première Guerre mondiale. Il y a mai 68 qui est passé par là, bien plus tard. Et en même temps, ça signe presque aussi la disparition de l'école de Trégarvan, puisqu'elle disparaît dans le milieu des années 70. Il y a aussi cette période-là qui est abordée, ou c'est peut-être une future évolution du Alors, musée
elle est abordée, hein, justement. On montre bien l'évolution de l'école. à travers la reconstitution de la salle 1970 et le logement de l'instituteur donc, qui était Yvon Peuca à l'époque. Donc, on montre bien que l'école est devenue plus participative à partir des années 70. Les enfants étaient amenés, par exemple, à monter sur l'estrade pour réciter des poèmes, alors que l'estrade, en 1910, était destinée à surveiller les enfants. Le maître ou la maîtresse était...
L'estrade devient presque une scène,
voilà, mais c'est
au
vrai
fur et à mesure.
On évoque toute cette partie-là, l'évolution des moyens d'instruction aussi. Par exemple, on étudiait le code de la route en 1970, chose qui n'était pas du tout proposée avant, évidemment. Mais oui, on évoque cette période-là lors de nos visites.
Parce que l'école disparaît en 74, c'est
oui.
ça ? Et qu'est-ce qui... C'est le dépeuplement des zones rurales qui conduit la,
oui.
qui conduit à la fermeture de l'école de Trégarvan ?
Oui. En fait, l'école de Trégarvan a été construite pour accueillir 80 élèves. Elle en a accueilli jusqu'à 120 dans les années 20. Et elle a fermé parce qu'il n'en restait plus que 5 enfants. Donc, 2 qui partaient au collège et les autres étaient frères et sœurs. Et Trégarvan a... comptait 500 habitants en 1900, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 116, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la commune la moins peuplée du département, et c'est l'exemple parfait de l'exode rural.
Alors, autour de l'école, sur quels axes de travail le musée travaille-t-il ? Parce que vous l'avez évoqué, il y a les sorties qui sont aussi envisagées, c'est une nouveauté, peut-être aussi liée au contexte aussi, pourquoi pas,
oui,
prendre le grand air, mais il y a aussi le potager dans l'enceinte du musée, qui peut être aussi un lieu de médiation, j'imagine.
Oui, alors le potager scolaire était présent dans l'école pour les leçons d'agriculture, comme on était en milieu rural, et depuis l'année dernière, on a mis en place un projet qui s'appelle le labotager, donc mélange entre laboratoire et potager pour... montrer le côté expérimental, donc il se divise en plusieurs espaces, donc un espace qui rappelle vraiment le potager scolaire d'autrefois, mais on a aussi un espace agroforesterie, on y fait plusieurs expériences, on associe des choses de la permaculture et on propose des ateliers en lien avec le potager. Donc par exemple, pour le rendez-vous au jardin, on a fait un atelier bombe de graines qui a bien fonctionné, qu'on proposera certainement cet été.
C'est-à-dire ?
Alors, on fait des bombes de graines, donc ça vient d'une technique d'un japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka, donc excusez-moi si j'ai écorché son nom. C'est pour végétaliser les espaces arides. Donc avec de l'argile, de la terre et des graines, on confectionne des bombes, donc sous forme de boules, qu'on peut lancer à faire éclater, et donc du coup ça revégétalise des espaces. Donc moi par exemple, j'ai mis des graines de tournesol, de capucine et de bourrache. Et ça permet de mettre de la couleur dans la ville, ce genre de choses. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire dans les espaces protégés. Et ça a beaucoup plu parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas.
J'ai cru entendre parler de tournesols géants au musée de l'école rurale. Ça y est, ils sont là ? Ils ont atteint leur maturité, 3-4 mètres ?
Alors ils ont été plantés, ils ne font pas encore cette hauteur-là, mais ils peuvent aller jusqu'à 8 mètres apparemment.
Bon.
Donc c'est en expérimentation, on verra le résultat peut-être dans quelques semaines.
Très bien, bon, on va surveiller cette histoire de tournesol, ça a l'air intéressant. Alors, est-ce qu'une structure comme le musée de l'école rurale laisse aussi une place au bénévolat ?
Alors, l'association du musée de l'école rurale en Bretagne est toujours présente, parce que c'était elle qui gérait le musée jusqu'à 2017. Et donc, les bénévoles proposent en général donc, des dictées. C'est eux qui venaient faire les dictées l'été, on va leur reproposer peut-être cette année. Ils participent également à la préparation des expositions sur les recherches d'objets, par exemple. Enfin, sur les recherches sur les objets qui ont été sélectionnés pour l'exposition, par exemple. Et donc là, il y avait une bénévole qui proposait des démonstrations d'expériences scientifiques, par exemple, parce que ils ont connu ça à l'école aussi. Et pour la plupart, les membres de l'association étaient enseignants également. Donc, c'est un domaine qu'ils connaissent bien.
Parce qu'on imagine quand même que le musée de l'école rurale, ça peut être aussi un sujet où vous êtes sollicité, par exemple, pour des élèves des étudiants, par exemple, en licence d'histoire ou en maîtrise. Vous pouvez être ressource aussi en termes...
On peut être ressource, oui. Alors là, ce qu'on met en place, d'ailleurs, pour les étudiants, c'est on recense tous les documents qu'on a au musée. Ça va être disponible sur le site internet sur demande pour qu'ils puissent s'en servir pour leurs études. Et en termes de visite, on a peu d'étudiants, mais on cherche à les faire venir, en effet.
Ah bah voilà, bon, bah faut lancer un appel à tous les profs d'histoire contemporaine, à tous ceux qui s'intéressent à la Troisième République, à l'école de Jules Ferry.
Oui.
Tout n'a pas été fait, je suis sûr qu'il y a encore des trucs.
Certainement, oui.
Alors, en termes de réseau, le musée s'inscrit aussi dans un espace où certains musées travaillent entre eux. Est-ce que c'est le cas, par exemple, du musée de l'école rurale ?
Alors, le musée de l'école rurale en Bretagne fait partie du groupement d'intérêt public Musée de territoire finistérien, donc qui regroupe l'écomusée des Monts d'Arrée et l'ancienne abbaye de Landévennec. Donc, on travaille ensemble. On travaille également avec les musées de la Presqu'île, la Tour Vauban, la Maison des Minéraux, le musée des Vieux Métiers à Argol. On fait partie du pass Presqu'île, qui octroie une réduction à tous les porteurs du pass. Donc, ce pass Presqu'île peut se trouver à l'accueil de chaque musée ou en office de tourisme. Et sur la distribution de nos documents, nous travaillons ensemble aussi assez régulièrement. Et par exemple, pour la prochaine exposition, la Fabrique de l'École 2.0, c'est en partenariat avec le Musée National de l'Éducation à Rouen, qui nous prête des objets et qui ont servi de conseil scientifique. Et on a également emprunté des objets à la Cité des Télécoms à Plomeur-Baudoux, avec qui on va sans doute organiser une rencontre au musée, puisque nous y sommes allés la semaine dernière.
Très bien. Eh bien, en termes de retour et peut-être d'animation, les grandes dates à retenir, ou enfin les grandes expositions, pour résumer, pour cette fin d'émission.
Alors,
grands rendez-vous que vous donnez, parce que c'est toujours bon de rappeler aux auditeurs que le musée évolue et qu'il y a toujours des chouettes choses à découvrir.
Oui. Alors, donc, la prochaine expo, la Fabrique de l'École 2.0, va ouvrir le 1er juillet. Donc, pour l'instant, on est ouvert tous les jours, sauf le samedi, de 14h à 18h. Et à partir du 7 juillet, on sera ouvert toute la journée, tous les jours, avec une pause entre 13h et 14h. Et on participe également à la Nuit des musées, le 3 juillet, donc de 18h à 22h. Et donc, on va proposer des contes par Patrice Goya, qui est conteur à Douarnenez. Et pour connaître toutes les dates de nos rendez-vous, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ou sur tous les réseaux sociaux. Donc on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn aussi.
Et puis c'est l'endroit pour s'inscrire aussi, pour suivre les dictées.
Exact.
Merci beaucoup Elsa.
Je vous en prie.
L'EM, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.